écrivain politique, journal d'actualité politique internationale, periodico de Actualidad Política Internacional www, Pinto, écrivain politique, pinto.com, écrivain politique, tout sur l'actualité politique, économique et culturelle.
Aux États-Unis, nos bâtiments sont responsables de plus de 40% des émissions de carbone. Les gens l'ignorent. On pense à nos voitures ou à d'autres choses qui produisent des émissions de carbone. Mais tout autour de nous, dans le silence, nos bâtiments, maisons, écoles, hôpitaux, brûlent de l'énergie. Et c'est une grande partie du problème climatique.
Aux États-Unis, les gouvernements locaux, les entreprises et les particuliers cherchent des moyens innovants pour réduire les émissions de carbone dans un lieu souvent négligé, nos maisons. Zach Senke travaille chez NK Architect, une entreprise spécialisée dans une technologie de pointe pour les bâtiments efficients en énergie, appelée Passive House, maison passive.
Je soutiens activement Passive House, car pour moi, il est évident que c'est un excellent moyen de transformer les bâtiments en action climatique. Dans l'énergie propre, on voit le coût des panneaux solaires et des éoliennes chuter et leur performance augmenter rapidement. Il faut en profiter et puiser dans la science pour construire de meilleurs bâtiments. Et c'est ce que fait Passive House. Pour tenir les objectifs de l'accord de Paris, nous devons contenir les émissions d'ici 2020, puis réduire de moitié les émissions tous les 10 ans.
L'accord de Paris sur le climat s'engage à limiter la hausse de la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius. Cet objectif ambitieux exigera beaucoup de coopération, de détermination et d'innovation. Réduire la consommation d'énergie des bâtiments y jouera un rôle essentiel. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, les bâtiments consomment 40% de l'énergie mondiale.
L'impératif moral de l'action est clair. Nous tous, gouvernement, entreprises, consommateurs, devons changer. Et même plus, nous devrons être le changement.
Mais comment en faire une réalité? À Seattle, Washington, la famille Ritchie a fait construire une maison Passive House avec des technologies de pointe pour réduire radicalement leur consommation d'énergie.
Je suis écologiste. J'étais ingénieur pendant une dizaine d'années. Je travaille dans la construction depuis 10-11 ans. J'aime le travail manuel. J'aime beaucoup la construction. Je voulais aller plus loin, vraiment faire quelque chose pour la communauté. Quand on construit une maison, on espère qu'elle va durer longtemps et on n'a qu'une seule chance de vraiment régler la consommation énergétique de la maison, qui sera bloqué pour les 100 ans à venir. Donc, c'était une idée convaincante. On a décidé de construire comme ça. Vous voyez, ce rebord de fenêtre est plus profond. Ce rebord a une profondeur de 25 ou 30 cm. Parce que tout le mur fait 40 cm d'épaisseur. Donc c'est un assemblage de murs assez profond, bien plus qu'une maison traditionnelle.
Une maison typique aux États-Unis a des murs extérieurs d'une épaisseur d'environ 25 cm.
Donc c'est une maison étanche à l'air avec une ventilation continue. On distribue de l'air frais dans toute la maison, tout le temps.
Une maison Passive House utilise une enveloppe de bâtiment pour vraiment contrôler l'air qui entre et qui sort. Il faut donc une couche épaisse d'isolation partout.
Ce sera peut-être difficile de filmer ici. Voici le ventilateur de récupération de la chaleur. Il aspire l'air frais à l'extérieur, le filtre, et le distribue en continu dans la maison.
Avoir de l'air frais constamment filtré permet d'éliminer les allergènes et les toxines dans l'air. Et notre maison est plus confortable. Dans notre ancienne maison, l'hiver, on faisait tourner le chauffage quasiment en continu et on devait se couvrir. Maintenant, on peut porter un t-shirt, un jean et des tongs toute l'année.
En En moyenne, une maison passive house coûte 3 à 5% de plus qu'une maison conventionnelle. Mais elle réduit la consommation d'énergie jusqu'à 90%. En Pennsylvanie, l'Office du logement a pris des mesures initiatives pour ces technologies. En donnant un avantage compétitif aux constructeurs qui les utilisent dans leurs offres de logements abordables.
La plus grande menace pour nous est le changement climatique. J'ai toujours adoré notre planète. J'aime la nature, le monde. Et voir cette planète s'éroder à tous les niveaux m'effraie.
Laura Nettleton, architecte à Pittsburgh, en Pennsylvanie, se concentre depuis peu sur la restauration de vieux bâtiments pour les mettre aux normes Passive House.
On nous a fait venir à McKeesport. À cause de la baisse de production d'acier, ce quartier s'est vidé. Ce centre communautaire s'est transformé en refuge pour sans-abri. Il y avait 72 personnes qui y vivaient et le bâtiment était désuet et en mauvais état. L'idéal pour la rénovation, c'est de mettre une enveloppe sur l'extérieur du bâtiment, une couche d'isolation, une nouvelle peau. Imaginez ceci, si je vous demandais de sortir par moins 10 degrés et de rester dehors toute la journée, et je vous proposais deux vêtements différents, une combinaison qui vous couvre la tête avec des gants intégrés et recouvre les bottes, ou un manteau de laine. C'est clair que vous allez choisir la combinaison. Elle est conçue pour empêcher l'air froid d'entrer. C'est le même principe que Passive House.
Et cette même protection dans un climat froid permet aussi d'économiser de l'énergie par temps chaud, ce qui réduit le besoin de climatisation quand la température grimpe.
Si vous isolez bien votre bâtiment, vous pouvez vraiment conserver la chaleur. On a économisé 68% d'énergie par rapport au bâtiment d'origine. C'était une réduction énorme.
Le mouvement Passive House prend de l'ampleur dans le Nord-Est et partout aux États-Unis.
Loïc Chapoz travaille sur la conservation des logements multifamiliaux chez NYSERDA, l'agence de l'énergie de l'État de New York.
Le premier élément de l'équation pour moi, c'est de réduire la consommation d'énergie. Une fois la consommation réduite de 50, 60, 70%, il est beaucoup plus facile de répondre à cette demande avec des énergies renouvelables, qu'elles soient solaires ou éoliennes. Ce que nous faisons ici à New York, c'est d'essayer de créer un marché de restauration en profondeur de bâtiments existants, en s'inspirant d'un programme à succès aux Pays-Bas appelé Energy Sprong.
Le programme Energy Sprong prend un bâtiment existant pour y ajouter une coque d'isolation et préparer le toit pour des panneaux solaires. Ces principes d'efficience énergétique, une enveloppe bien étanche et de l'air frais, en circulation continue, ressemble à ceux de Passive House. NYSERDA étudie la mise en œuvre d'un système comme Energy Sprong ou Passive House à grande échelle pour une exécution dans tout l'État. Et pour étendre la portée de cette technologie, l'Institut américain de Passive House a commencé à travailler avec ses homologues en Chine et au Japon pour promouvoir l'architecture durable au niveau mondial.
C'est vraiment possible d'étendre Passive House suffisamment vite pour créer les conditions de construction à zéro émission de carbone d'ici 2050. Et c'est ce que nous devons faire.
Je suis sûr que c'était pareil quand on a équipé les premières maisons de plomberie ou d'électricité. Oh, c'est stupide, on n'y arrivera jamais, c'est trop cher. Vous voyez, c'est la même chose, sauf qu'on rend la consommation d'énergie plus logique.
Chaque fois que je me promenais dans le temps, quand je pouvais me promener à Buenos Aires, et chaque fois que je me promène ici à Paris, seul, surtout la nuit, je sais très bien que je ne suis pas le même qui, pendant la journée, mène une vie ordinaire et normale. Je ne veux pas faire du romantisme bon marché, je ne veux pas parler d'état second. Mais il est évident que ce fait de se mettre en marché dans une ville comme Paris ou Buenos Aires, la nuit, cet état ambulatoire, où à un moment donné on cesse d'appartenir au monde ordinaire, mais situe par rapport à la ville et situe la ville par rapport à moi dans une relation que les surréalistes aimaient à appeler privilégiée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se produit vraiment le passage, le pont, les osmoses, les signes, les découvertes. Tout ce qui finalement a donné une grande partie de ce que j'ai écrit comme roman ou comme nouvelle. Marcher dans Paris, et c'est pour ça que je qualifiais Paris de ville mythique, marcher dans Paris signifie avancer vers moi. Mais c'est impossible de le dire avec des paroles, des mots, ça. C'est-à-dire que dans cet état où j'avance un peu perdu dans une distraction qui me fait regarder des affiches, des enseignes de bistrot, des gens qui passent, et établir tout le temps de relations qui composent des phrases, de bribes de pensées, de sentiments, tout ça crée un système de constellations mentales et surtout de constellations sentimentale qui détermine un langage que je ne peux pas exprimer par les mots, par les paroles. C'est à ce moment-là où il y a, à Paris par exemple, des lieux qui ont été toujours privilégiés pour moi. Je pourrais vous citer un, le premier qui me vient dans la mémoire. Là, tout près d'ici, au Pont Neuf, à côté de la statue d'Henri IV, il y a un réverbère dans le fond, là où on descend pour prendre le bateau-mouche. La nuit, à minuit, quand il n'y a personne, ce coin-là, solitaire, c'est absolument pour moi un tableau de Paul Delvaux. Et il y a le sentiment du mystère qu'il y a dans les tableaux de Paul Delvaux, cette imminence d'une chose qui peut paraître, qui peut se manifester, et qui vous met dans une situation qui n'a plus rien à voir avec les catégories logiques et les événements ordinaires. Je pourrais aussi vous parler du métro à Paris. Le métro a été toujours pour moi un lieu de passage où il me suffit de descendre dans le métro pour entrer dans une catégorie logique tout à fait différente, ou des catégories logiques. Mon sentiment du temps change. D'ailleurs, dans une nouvelle, L'homme à l'affût, il y a un personnage qui découvre que le temps est complètement différent quand on est dans le métro que quand on est en surface. Et il peut même le prouver logiquement. Ça, c'est un sentiment, une expérience que moi j'ai au moins une fois tous les 15 jours. C'est-à-dire brusquement découvrir que dans certains états de distraction dans le métro, on a le sentiment qu'on peut habiter dans un temps qui n'a aucun rapport avec le temps qui existe en surface quand on sortira une fois de plus dans la rue. Et il y a aussi les galeries couvertes, la galerie Vivienne, il y a tous ces endroits de Paris que les gens parcourent pour aller à la recherche d'une boutique et qui pourtant étaient les lieux hantés de l'autre amont dans le quartier de la Bourse. Toutes ces galeries couvertes qui font un Paris absolument magique, mystérieux, et c'est ce que j'appelle le mythique.
Le monde est formé d'une multitude de cultures, de pays et d'êtres humains différents. En dépit de toutes les différences, ceux-ci ont toutefois un point important en commun. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Tel est le libellé du premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme en date du 10 décembre 1948. Au fil du temps, les droits de l'homme sont devenus l'un des principes fondamentaux de l'histoire de l'humanité.
Mais que sont en fait les droits de l'homme? Qui est responsable de leur protection? Et sont-ils réellement valables pour tous les êtres humains?
On entend par droits de l'homme les droits appartenant à chaque être humain du simple fait de son existence. Les droits de l'homme sont innés. Ils sont valables sans exception pour tous les êtres humains dans le monde entier. Ils sont donc universels. Ils sont également valables pour chaque être humain sans aucune distinction, notamment de race ou de religion, de sexe, d'orientation sexuelle, de couleur, d'âge ou d'autres caractéristiques qui pourraient établir une différence entre les êtres humains. Les droits font partie intégrante du droit international. La charte de l'ONU datant de 1946 contenait déjà des passages consacrés à la protection et à la signification des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU en 1948, puis la première véritable convention internationale conclue en la matière. L'ONU adopta en 1966 deux autres pactes internationaux, dont le premier se rapporte aux droits civiques et politiques et le second aux droits économiques, sociaux et culturels. Ensemble, tous ces instruments forment ce qu'on appelle la Charte internationale des droits de l'homme. Ils constituent le principal fondement juridique des droits de l'homme. À cela s'ajoute toute une série de conventions de l'ONU s'appliquant à des domaines spécifiques des droits de l'homme. Exemple, la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, la Convention sur les droits des enfants, la Convention contre la torture et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Mais quels sont les différents droits de l'homme consignés dans ces pactes ?
On classe souvent les droits de l'homme en trois générations ou dimensions. La première dimension, les libertés politiques et civiles classiques. Il s'agit par exemple du droit à la vie et à l'intégrité corporelle, l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé, la protection contre la torture, la liberté d'opinion, la liberté de conscience et de religion, une large interdiction de la discrimination, ainsi que le droit de vote. La deuxième dimension, les droits de l'homme économiques, sociaux et culturels, à l'instar du droit au travail et à une rémunération appropriée, le droit de créer un syndicat, l'égalité des sexes, la protection de la famille, des femmes enceintes, des mères et des enfants, le droit à un niveau de vie approprié, y compris à une alimentation adéquate, le droit de jouir du meilleur état de santé possible, le droit à l'éducation ou le droit de prendre part à une vie culturelle. Les droits relevant de la troisième dimension sont sur les droits de groupe, par exemple le droit à l'autodétermination, le droit au développement, le droit à un environnement propre ou le droit à la paix. Le caractère indivisible des droits de l'homme est un principe important. Cela veut dire qu'on ne peut établir un ordre de priorité entre les droits de l'homme politiques, économiques, sociaux et culturels. Ces droits ne peuvent être mis en œuvre que conjointement. La mise en œuvre des libertés politiques et civiles est subordonnée à l'octroi des droits économiques, sociaux et culturels et réciproquement.
Et qui s'occupe en fait de l'application et du respect des droits de l'homme ?
Ce sont les États qui sont les premiers responsables de l'octroi des droits de l'homme. Ils ont le devoir de s'abstenir de commettre des violations des droits de l'homme. Ils sont tenus de les protéger contre les atteintes perpétrées par des tiers. De plus, ils doivent créer les conditions permettant l'entière mise en œuvre des droits de l'homme là où ces conditions font encore défaut. Le principal organe de l'ONU compétent en la matière est le Conseil des droits de l'homme, un groupe de 47 États basés à Genève. Il procède à un contrôle régulier de la situation des droits de l'homme dans l'ensemble des pays membres de l'ONU. Il peut également dépêcher des experts indépendants, rapporteurs spéciaux, dans certains pays. Une critique souvent formulée, nombre d'États siégeant au Conseil des droits de l'homme ne les respectent pas eux-mêmes. Le Conseil de sécurité concentre son action sur la protection des droits de l'homme en temps de guerre et de conflit. Il se mobilise, par exemple, contre le recrutement d'enfants soldats. La haut-commissaire aux droits de l'homme est chargée de coordonner l'action en faveur des droits de l'homme dans le système onusien. Elle possède de nombreux bureaux nationaux dans le monde entier et peut détacher des experts des droits de l'homme dans les opérations de maintien de paix de l'ONU. La Cour pénale internationale de La Haye, créée en 1998, c'est la première instance habilitée à enquêter et à prononcer un jugement en cas de grave violation des droits de l'homme tels que le génocide, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces possibilités restent limitées car elles ne bénéficient pas encore du soutien de certains États importants comme les États-Unis ou la Chine. Néanmoins, un premier pas important a été fait. Les criminels de guerre ne peuvent plus être sûrs de s'en tirer en toute impunité. À côté des institutions onusiennes de dimension mondiale, on citera plusieurs accords et institutions à l'échelle régionale. La Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Convention américaine relative aux droits de l'homme. Un rôle particulièrement important revient à la société civile. Des organisations non gouvernementales comme Amnesty International ou Human Rights Watch surveillent le respect des droits de l'homme et signalent les cas de violation dans le monde entier. Grâce à leur activité de sensibilisation, elles peuvent faire pression sur les gouvernements. Elles participent en outre au développement des bases juridiques. La création d'instituts nationaux des droits de l'homme revêt également une grande importance, car ils jouent un rôle indispensable de gardien des droits de l'homme.
Y a-t-il aussi des aspects controversés sur les droits humains ?
Oui, il y a deux principaux points de discorde. Point litigieux numéro 1, l'universalité des droits de l'homme. L'argument ? L'idée des droits de l'homme est née dans le monde occidental et c'est difficile de la transposer dans d'autres cultures. C'est vrai, la naissance et la diffusion de l'idée des droits de l'homme sont empreintes de traditions et de développement culturel. Mais il est aussi une évidence qu'aucune personne n'accepte d'être torturée ou discriminée en raison de la couleur de sa peau ou de sa religion. Toute personne souhaite pouvoir exprimer librement son opinion sans avoir peur d'être persécutée. Toute personne souhaite pouvoir vivre dans la dignité, posséder un toit et ne pas craindre de souffrir de la faim ou de la soif. Voilà tout ce qu'englobe l'idée d'universalité des droits de l'homme. Il est toutefois frappant que les États ou les groupes qui remettent en question le caractère universel des droits de l'homme sont souvent ceux qui se voient eux-mêmes reprocher de les violer. Point litigieux numéro 2, les États occidentaux sont accusés de prendre les droits de l'homme comme prétexte pour intervenir militairement dans d'autres pays et de les violer eux-mêmes. Évidemment, aucun État n'a le monopole des droits de l'homme. On constate également des violations des droits de l'homme dans les pays occidentaux. Prenons l'exemple des mesures mises en place au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 et qui violent d'une certaine façon les droits de l'homme. Elles sont justifiées la plupart du temps par les impératifs de la lutte contre le terrorisme. Comme nous le voyons, les droits de l'homme sont des droits très précieux. Toute personne humaine en jouit de manière égale. Les États doivent placer la protection et le respect de ces droits au cœur de leur action politique. Car toute politique doit être conçue en fonction de l'homme et servir ses intérêts. Ce n'est pas l'homme qui est au service de l'État, c'est l'État qui est au service de l'homme. Il ne faut jamais cesser de s'investir dans la lutte et dans la défense des droits de l'homme. Dans le long terme, nous ne pourrons vivre dans la paix et dans la stabilité que si nous respectons les droits de l'homme.
Écrivain politique. Journal d'actualité politique internationale. Periodico de Actualidad Politica Internacional www.into. Écrivain politique. Into.com.